bouton rouge.
Le bouton rouge avec les deux. Ouais.
Ok. Alors j'espère que vous avez bien dormi. On est content d'être avec vous. Je crois qu'on est au complet maintenant. Il manquait des personnes hier soir. Ouais. Donc merci Rob et Vicky de m'avoir invité avec vous. Alors voilà, ça s'entend mieux ? Non ? Oui, il doit y avoir quelque chose là. Alors on va continuer, mais on va, au lieu de faire tout de suite le deuxième, hop, on change ?
Oui.
Voilà. Voilà, ça marche. Ouais. Au moins, je m'entends. Alors, on a commencé hier soir avec... on va faire quatre personnages qui ont eu vraiment des luttes avec l'ennemi et comment Dieu nous donne les défenses pour les attaques de l'ennemi. Mais je voulais continuer juste pour un moment ce qu'on a fini avec hier soir, c'est-à-dire en parlant du mensonge. Et sur votre dépliant, vous avez les deux pages dernières. Le mensonge et la vérité. Et si tu veux passer le premier diapo des mensonges, ce qu'on a à gauche, les enfants doivent être confrontés à la réalité du monde pour apprendre à survivre. J'entends souvent cette phrase. Et comme toujours, l'ennemi, il sait bien mettre son mensonge dans la peau d'une vérité. Mais en fait, au fond, si vous voulez lire à côté, c'est marqué « En réalité, notre responsabilité n'est pas d'élever les enfants capables de s'intégrer ou tout au moins de subsister dans ce monde, mais des enfants qui pourront être utilisés par Dieu pour transformer ce monde. » Ça, c'est vraiment pourquoi. Tels de jeunes plantes fragiles, nos enfants ont besoin d'être protégés des influences du monde jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment mûrs spirituellement pour y résister. La crainte de l'Éternel est une relation vivante et personnelle avec Dieu, sont les meilleures protections contre l'influence du monde. Voilà comment nos enfants pourront tenir ferme et être des lumières pour leur entourage. Qu'est-ce que vous en pensez? Mmh. Ouais, c'est bien.
Moi,
oui.
Moi, je ne vois pas trop de différence entre à gauche et à droite.
Quelle est la différence pour vous? Est-ce que vous voyez une différence?
Oui. Oui.
C'est pas que juste survivre, mais c'est pour réaliser, de transformer aussi le monde.
Voilà.
Il faut les armer avant de les laisser se confronter au monde. Il faut les armer avec la parole de Dieu et la crainte de Dieu.
Il faut d'abord qu'ils soient convertis.
Ouais. Ouais. Et on a une responsabilité.
Ouais.
Donc, l'un mène à l'autre. Donc, il y a le mensonge que ça s'arrête là. Mais la vérité, c'est que oui, les enfants sont confrontés à la réalité du monde, et c'est là qu'ils apprennent des choses. Mais on a une responsabilité, tant que parents, à les amener pour les former avec les bonnes choses, pour qu'ils aient cette contre-attaque contre les choses de ce monde. Deuxième vérité, si on avance. Tout enfant passe un jour par une phase de révolte. Ça, je comprends, parce qu'on a souvent des difficultés. Et c'est plus facile à dire, oui, mais c'est normal, c'est la jeunesse. Moi, je pense au peuple Amish aux États-Unis, dans le pays de Pennsylvanie, où jusqu'à 18 ans, c'est très strict, ils n'ont pas les choses. Mais à 18 ans, ils ont un an pour décider s'ils veulent rester comme Amish ou s'ils veulent changer. Et ils font n'importe quoi pendant un an. Pas tous, mais ils peuvent. Mais est-ce que ça, c'est la réalité? Alors, comme j'ai marqué, si les parents s'attendent à ce que leurs enfants se révoltent, il est probable qu'il en sera ainsi. Dieu a promis une bénédiction aux parents qui gardent son alliance et apprennent à leurs enfants à faire de même. Les parents ne peuvent pas obliger leurs enfants, ça c'est sûr, à marcher avec Dieu. mais ils peuvent être pour eux un exemple de fidélité au Seigneur. Ils peuvent entretenir dans leur foyer une ambiance empreinte de la crainte de l'Éternel et favorisant la croissance spirituelle de leurs enfants. Donc, c'est vrai, les enfants, souvent, ils revoltent, mais ce n'est pas une nécessité. Et si on implique ça à nos enfants, bah, c'est normal, vous allez passer par l'adolescence, vous allez faire n'importe quoi. Bon, ben... Bah, ils encaissent toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, toi?
Néanmoins, c'est souvent le moment où ils sont confrontés entre le choix pour Dieu et le choix de la société.
Exactement.
Et c'est l'expression de leur conflit interne qui ressort. Alors, après, c'est vrai que au niveau des parents, c'est pas toujours facile à gérer. Mais il faut essayer de montrer que ce conflit, cette révolte, entre guillemets, bon, elle peut prendre des affaires de révolte, c'est vrai, mais ce conflit, il est avant tout un conflit qui est interne dans leur cœur. Et que c'est ce conflit qu'ils doivent gagner en Christ.
Et que ce n'est pas normal que l'ennemi va essayer d'attaquer pour les faire tomber.
Voilà.
Et c'est pour ça que c'est important pour les parents d'inculquer la volonté de Dieu et comment Dieu agit et pourquoi ils n'ont pas la nécessité de tomber dans les pièges et aller comme... On est tiraillé. Ça, c'est la manière que nous sommes. Dieu nous a donné cette volonté. Mais de dire aux enfants, et j'ai entendu les parents qui disent « Ouais, mais c'est normal de passer par l'adolescence, vous allez faire un peu les expériences. » Attends, ça vient d'où ça? Alors, troisième, on passe vite, mais peut-être ça va vous travailler et on aura des questions après, c'est bon. Le troisième, c'est un peu spécial. Ça, c'est plutôt ce qu'on vit, par exemple, aux États-Unis. Je sais que mon enfant est chrétien parce qu'il dit qu'il a accepté Christ quand il était petit. En France, il y a moins de problèmes. Bah, peut-être c'est aussi un problème de plus en plus, mais parce qu'en France, il n'y avait pas tous ces héritages chrétiens comme on a souvent aux États-Unis. Mais la réponse, ceux qui ne manifestent aucun intérêt pour les choses spirituelles et qui s'opposent constamment à la parole et la volonté de Dieu ne peuvent pas se prévaloir d'être sauvés. Si les parents pensent que leurs enfants connaissent le Seigneur alors que leur vie ne l'atteste pas, cela peut conforter les enfants dans l'illusion d'une fausse sécurité et peut aussi empêcher les parents de prier de façon juste pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Comme j'ai dit, quand même, je vois moins ça en France. Mais ça existe quand même. Ça, c'est
oui, mais parce que chez nous, la culture chrétienne est moins attendue.
Bah, c'est ça. Exactement, c'est ça.
Mais c'est vrai dans un certain nombre de milieux, quand même en France.
Ouais.
Malheureusement, dans le protestantisme libéral,
ouais.
C'est ça.
Aux États-Unis, dans le milieu où j'étais, chrétien, souvent on baptisait les enfants de 4-5 ans. Et c'est vrai qu'il y a des enfants à cet âge qui comprennent aussi la vérité. Je ne dis pas le contraire. Mais j'apprécie en France souvent que, d'accord, tu as compris, mais on va voir maintenant la formation pour être un peu plus âgé, pour être clair que la décision prise est ouverte à tout le monde.
Donc, oui, et puis pour amener les enfants qui peuvent très bien comprendre qu'ils pêchent.
Voilà.
Mais ils n'ont pas encore la conscience que leur nature est pécheresse. Et c'est au moment de cette conscience-là que ça s'engrandit.
La différence entre un acte et une nature qui existe en nous. Oui, c'est ça. On va voir la quatrième. Nous ne sommes pas responsables de ce que nos enfants sont aujourd'hui. Ça, c'est dur, hein? Alors, j'ai marqué, et on peut discuter ça, les parents ont une influence considérable sur la vie de leurs enfants, notamment par l'exemple qu'ils donnent, par leur enseignement et par leur façon de diriger le foyer. Chaque génération est responsable de transmettre à la suivante l'héritage d'un cœur qui connaît Dieu, qui lui obéit. Les parents rendront compte à Dieu de l'état spirituel de ce qu'il leur a confié. Mais quand même, tout être humain est responsable de marcher avec Dieu et de lui obéir. Que nos parents nous aient donné l'exemple ou non, nous devrons tous rendre compte à Dieu de nos propres choix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous paraît juste? En tout cas, oui.
Combien de fois dans l'Écriture il est dit « Et tu enseigneras ces choses à tes enfants et tes petits-enfants. »
L'inculquer. Tout à fait. Mais, franchement, moi j'ai 4 garçons, 4 enfants, et c'était pas facile. Heureusement, ma femme, elle a eu une charge incroyable à faire ça. Mais tous les soirs, je me souviens, on faisait vraiment exceptionnellement, on ne faisait pas, mais autour de le repas ensemble, on demandait que les enfants soient là, même la jeunesse, et qu'on termine le repas avec une lecture de la parole. Et on avait un carnet de prières où 30 jours, et chaque jour, il y avait des photos quand ils étaient petits, bien sûr, on ne pouvait pas tout expliquer, mais et on priait pour quelque chose, une personne, une famille ou quelque chose, l'église, tous les jours, il y avait quelque chose. Et on avait un moment de partage. Et là, souvent, c'est là où sortaient un peu les luttes, par exemple. Oui, mais c'est pas juste parce qu'il y a des enfants qui font ça. Et on pouvait discuter ensemble. Et ça a créé une ambiance de formation. Moi, je me souviens quand notre troisième fils est allé à Black Forest, l'académie en forêt noire en Allemagne. Et il est revenu à Noël, il était en train de faire la vaisselle avec Luna, parce qu'on n'avait pas de machine à vaisselle, j'avais 4 machines, tu vois, 4 garçons. Et il se tourne vers Luna et il dit, tu sais, à l'école, on n'a pas le droit d'écouter toutes les musiques, etc. Mais moi, j'ai trouvé un moyen de le faire. Et Luna, et il dit, je n'arrive pas. Elle dit, pourquoi tu n'arrives pas? Parce que ma conscience ne me laisse pas faire. Et on me dit, on prie pour cette conscience, tu vois. On prie pour ce qui était inculqué, que ça travaille. Et ça, c'est vraiment la lutte qui existe. Donc, on a un rôle à faire. Des fois, on se sent un peu démuni parce qu'on voit des chutes, on voit des problèmes. Mais c'est tellement important. Donc, on est là quelques jours avec vous. Et si ça vous intéresse à parler de... les enfants et les luttes et tout ça, je connais des difficultés. Aujourd'hui, on peut dire par la grâce de Dieu, nos 4 enfants sont missionnaires, serviteurs de Dieu, et c'est pas à cause de nous. On a fait notre part à enseigner, inculquer les choses, mais le Seigneur a dirigé, et c'est presque une réponse pour notre fidélité à faire notre part. Ce n'est pas une obligation de la part du Seigneur. Et chaque enfant est responsable, ça c'est sûr. Mais quand même, on a aussi une responsabilité. Donc, on peut en parler si ça vous donne le désir. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième confrontation personnelle de la vie de Job. C'est très intéressant. Parce qu'ici, nous voyons que Satan cible et attaque le corps de Job. Et si Satan n'arrive pas à nous vaincre par la tromperie, comme on a vu hier soir, par la séduction de notre esprit, il va essayer par d'autres choses. Et souvent, c'est par essayer de détruire notre corps physique. Satan est le serpent, comme on a vu hier soir. Et comme le serpent rusé, il essaie de séduire, de tromper. Mais... Satan est aussi le lion. Le lion, et comme le lion, il cherche à dévorer. Vous savez, 1 Pierre 5, verset 8, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche à vous dévorer. » S'il n'arrive pas à nous rendre aveugle aux choses, les mensonges, avec les mensonges, là, il va attaquer le corps. Le but de Satan, c'est toujours le même. Il veut nous arrêter. Il veut mettre des bâtons dans les roues. Il veut nous détruire même, s'il faut. Et si on croit ces mensonges, nous allons nous-mêmes nous détruire, comme on a vu hier soir. Mais si ça ne marche pas, si on résiste, il va changer de tactique. Il ne va pas nous laisser tranquilles, ça c'est sûr. Et souvent, il attaque notre corps physique, comme avec l'exemple de Job. Alors c'est quoi le cible pour le destructeur, l'ennemi, c'est le corps. On va lire une partie de Job, les deux premiers chapitres. On ne va pas tout lire, mais je vais remplir. Et on va commencer avec le verset 6. Job, chapitre 1, verset 6. Il dit, « Ah, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Alors l'Éternel demanda à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de faire mal, de mal faire, pardon. Satan lui répondit, est-ce que vraiment rien, pour rien que Job révère Dieu, n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et il en verra, s'il ne te maudit pas en face. Alors l'Éternel dit à Satan, tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Et vous connaissez la suite, verset 14, un messager arrive quand la famille était ensemble en disant que les bœufs, les ânes et les serviteurs étaient massacrés. Et verset 16, il dit, le foudre est tombé un autre arrive en disant que la foudre est tombée du ciel, elle a foudroyé des brebis et des serviteurs. Verset 17, maintenant c'est les chameaux et les serviteurs. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre arrive. Et tes fils et tes filles en train de manger et la maison est tombée sur eux. Alors verset 20, Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. C'est formidable ça. Hein? Et au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Ah, j'aime ça. Et puis chapitre 2, ça continue. Un autre jour où les anges de Dieu se rendaient au conseil de l'Éternel, Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux au conseil. L'Éternel lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» Celui-ci répondit, « Je viens de parcourir la terre et la Sidonie. » Dis donc, hein, il fait beaucoup ça. Alors l'Éternel reprit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui revient Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. » Mais Satan répondit, « Pau, pou, pau, tout ce qu'il a à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Mais porte donc la main sur son corps et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » L'Éternel dit à Satan, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Alors Satan se retirait de la présence de l'Éternel et infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plainte des pieds jusqu'à la crâne. Et puis verset 9, sa femme dit, maudit Dieu, et meurt. Mais, fin du verset 10, au milieu de tous ses malheurs, Job ne commet pas de péché dans tout ce qu'il dit. J'aime beaucoup l'histoire de Job.
La vie aujourd'hui n'est pas facile. Et quand je lis tout ce qu'il a vécu, je dis, ah, ma vie est quand même plus facile que ça. Mais la cible ici, c'est le corps de Job. Et c'est un bon exemple, cet homme, de l'attaque que nous avons des fois. Job a perdu le fruit de son corps. Job a perdu de quoi nourrir son corps, ses chances, ses brebis, tout ça. Et il a perdu la santé aussi de son corps, avec une maladie souffrante, une maladie horrible. Ses amis sont restés dans le silence, il dit, verset 13 du chapitre 2. Pendant une semaine, en voyant sa douleur, il ne pouvait même pas lui parler. Même sa femme était tellement bouleversée par ses épreuves qu'elle lui dit de maudire Dieu et de mourir. Ça sera plus simple. En tout cas, Satan attaque le corps de Job de tous les côtés. Mais pourquoi? C'est la question. Pourquoi Satan attaque notre corps physique? D'abord, je pense que c'est parce que notre corps est le temple de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'est pas visible dans le monde, dans le quartier où on habite. Mais les chrétiens, il est visible. Dans notre société, ce que le monde voit, c'est ma façon de vivre, mes réactions. Nous sommes vus et notre comportement est remarqué dans notre corps physique. Et ça peut glorifier et exalter le Seigneur, ou ça peut faire le contraire. Dans notre corps physique, nous pouvons nous moquer de Dieu, nous détourner de lui. Et c'est ça que les gens regardent. Quelle est notre façon de faire? Dieu veut demeurer dans notre corps pour que le monde puisse voir, que le monde ait soif même, et que le monde cherche Dieu. Parce que les gens autour de nous, de moins en moins, ça fait 45 ans que je suis au ministère en France, et de moins en moins je vois les gens qui regardent dans la Bible. Ils ne veulent pas. Par contre, ils aiment bien regarder les chrétiens à côté. Et ceux qui se disent chrétiens, ça fait beaucoup de mal, beaucoup de peine pour les vrais. Mais dans notre quartier, ça fait 8 ans qu'on habite là où on habite. Et c'est juste cette année où les gens commencent à me poser des questions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu quelque chose de différent. Et ils veulent savoir pourquoi on laisse Dieu agir en nous de cette manière. Donc, Satan veut attaquer le moyen que Dieu se manifeste au monde. Dieu veut demeurer dans notre corps pour que le monde puisse voir et avoir soif. Mais aussi, pas seulement notre corps est le temple de Dieu, mais aussi parce que notre corps est l'instrument de Dieu. Vous connaissez les versets en Romains chapitre 6, versets 12 à 13, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme les armes au service du mal, au service du diable. C'est-à-dire, Dieu a toujours employé les gens pour faire son œuvre. Comme un mécanicien, il a ses outils pour faire son travail. Dieu aussi a ses outils. C'est nous, entre ses mains. Et Dieu veut faire avec nos vies pour aider les autres à voir Dieu. Donc, la cible de Satan, c'est le corps. Et quelle est son arme? Son arme, c'est la souffrance. Et c'est là où on est tous un peu faibles, je pense. Satan essaie de contrôler les circonstances autour de notre corps pour que nous, les chrétiens, pour que nous souffrions. Regardez l'exemple de Job. Premièrement, Satan attaquait le corps de Job avec les circonstances difficiles. Ses enfants, sa richesse, l'harmonie même avec sa femme, ses amis, ses voisins. Mais ça n'a pas marché. Alors ensuite, Satan attaque le corps de Job avec une maladie horrible. Quand Job regarde autour de lui, la situation est douloureuse. Mais quand il regarde à l'intérieur de lui et voit son état physique, c'est encore plus douloureux. Mais une chose importante à noter ici dans ce texte, c'est que Dieu contrôle ce qui se passe. Et ça, c'est beau. Satan ne peut pas nous attaquer sans la permission de Dieu. Jésus a dit la même chose à l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez quand Jésus dit qu'il allait aller à la croix et qu'il a dit « Ah, même si tout le monde t'abandonne, Seigneur, je serai avec toi jusqu'au bout. » Et Jésus répond en Luc 22, versets 31 et 32, « Satan vous a réclamé, Pierre, pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Que on a les attaques, mais Satan contrôle la chose. Dieu contrôle la chose. Il ne laisse pas Satan faire n'importe quoi. Satan ne peut pas toucher l'enfant de Dieu sans la permission de Dieu. Toute souffrance qui m'arrive, de savoir que, d'accord, peut-être je ne suis pas d'accord, mais c'est permis quand même par Dieu. Et c'est ce qu'il fait, il garde le contrôle. Mais ce que Dieu ne contrôle pas, c'est ma réaction à la souffrance. Et c'est ici où Satan va essayer d'accomplir son but. Mais avant d'aller plus loin avec la souffrance de Job, je dois clarifier quelque chose, parce que j'entends ça aussi. Il existe une souffrance naturelle parce que nous sommes des êtres humains. Il ne faut pas blâmer Satan pour toute chose. Il y a la vieillesse, il y a des accidents, il y a les maladies, la mort des proches peut-être, ou la tristesse dans la vie, ça existe. On ne peut pas dire toujours qu'une maladie est la faute de Satan. Il y a aussi une souffrance qui vient de Dieu. Parce que si on est enfant de Dieu, des fois, il nous faut faire revenir sur le droit chemin et il permet les choses pour nous aider à revenir. Toute souffrance n'est pas attribuée à Satan, mais quand même, il existe une souffrance satanique comme celle que Job a expérimentée. Mais toutefois, même dans la fournaise de cette souffrance, nous pouvons vivre avec l'assurance que Dieu garde sa main sur le thermostat. C'est intéressant ici que Job n'était même pas au courant de ce qui se passe parce que ça s'est passé dans le lieu céleste. Lorsque vous êtes dans des circonstances difficiles, peut-être une bonne chose, c'est d'essayer de discerner d'où vient cette souffrance. Est-ce que c'est à cause de la vie naturelle? Moi, j'ai 70 ans cette année, alors c'est normal que j'ai quelques douleurs physiques. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que il y a quelque chose dans ma vie que je dois régler. Ou est-ce que ça vient de Satan, une attaque d'un ennemi pour me faire souffrir? En fait, vous ne pouvez pas changer l'origine de votre souffrance, mais vous pouvez contrôler votre réaction à la souffrance. Et nous allons voir comment, en regardant le but de Satan dans la souffrance. Parce que le but de Satan, c'est quoi? C'est de nous rendre impatients avec la volonté de Dieu. Le seul endroit au Nouveau Testament où Job est cité est dans Jacques chapitre 5, verset 11, où il dit « Vous avez entendu parler de la patience de Job, ou l'endurance de Job. » Satan voulait que Satan devienne impatient avec Dieu et sa volonté, et l'abandonne. C'est ce qu'il veut, souvent, avec nous. Hein. Mais ça n'a pas marché. Job est devenu impatient avec lui-même, impatient avec sa famille, avec ses amis, mais jamais avec Dieu. Mais s'il ne comprenait, même s'il ne comprenait pas l'œuvre de Dieu et ce que Dieu était en train de faire dans sa vie. Mes amis, la patience. Quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Nous allons louper beaucoup de choses si nous n'avons pas cette patience. Les enfants, par exemple, ils manquent de patience. Ils commencent à faire quelque chose, ils n'arrivent pas, donc ils jettent, bon, c'est fini, j'aime pas ça. Et souvent, les adultes, dans la vie, on agit de la même manière. N'est-ce pas? L'impatience est aussi une marque de l'incrédulité. Comme la patience est une marque de maturité, l'impatience est une marque de l'incrédulité. Si vous êtes au bout du rouleau, au bout des nerfs, anxieux dans la vie, c'est sûr que vous n'êtes pas en train de vous confier à Dieu, même si vous ne comprenez pas. Patience et foi, les deux vont ensemble. Si nous nous confions vraiment en Dieu, nous l'attendrons faire sa volonté, même si ça fait du mal. L'impatience est aussi une marque qu'on voit dans la chair. Je pense à Abraham comme exemple. Il a vu qu'il y avait une sécheresse dans le pays, donc il est parti en Égypte. En Égypte, c'était pas très bien. Il a dû mentir selon sa femme. Un demi-mensonge, parce qu'elle était quand même sa demi-sœur. Mais... Et après, il a pris Agar. Le roi Saül, il est devenu impatient avec Dieu. Samuel, le sacrificateur, devait venir pour faire les sacrifices. Et le roi Saül a dit, il est en retard, tant pis, on va le faire sans attendre. Et c'est lui qui fait le sacrifice. L'apôtre Pierre est devenu impatient, il a sorti son épée pour régler la chose pour Jésus. Satan sait s'il peut nous faire impatient avec Dieu et sa volonté. Il peut aussi nous emmener à faire une bêtise. C'est ce que Job 23, verset 10, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai comme l'or pur. Les épreuves de la vie dans la main de Dieu nous poussent vers la maturité. Ils nous poussent à construire notre foi pour nous aider à nous confier encore plus à Dieu et pas en nous-mêmes. Donc, ça veut dire que quand je suis impatient, je dois faire attention. Ça ne vient pas de Dieu. L'ennemi est à l'œuvre. La porte est ouverte. Quand les circonstances de la vie m'irritent, fais attention, Satan est à l'œuvre. Quand les problèmes dans la famille, les finances, les sentiments, ces choses menacent, attention, la porte est ouverte. Et Satan veut mettre son pied. Mais heureusement, Dieu nous donne une arme, une défense. La défense, c'est la grâce de Dieu. 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je pense à Paul qui a écrit, c'est Pierre qui a écrit ça, mais je pense à Paul qui a écrit un peu la même chose, et il parlait de ses difficultés physiques où il a prié Dieu que Dieu enlève l'écharde physique. On ne sait pas exactement ce que c'était. Mais Dieu répond non. Il lui donne sa grâce et la force nécessaire pour affronter le problème. Il a dit, ma grâce te suffit, Paul. C'est sûr, par la grâce de Dieu, nous pouvons persévérer même dans la souffrance. Notre Dieu est le Dieu de toute grâce. La grâce n'est pas une sorte d'expérience mystique, comme j'entends mes voisins le dire. Ah non, la grâce est la provision de Dieu pour mes besoins. Ça, c'est pas sa grâce. La loi veut dire que je dois faire quelque chose pour Dieu. Mais la grâce veut dire que Dieu fait quelque chose pour moi, quand j'ai besoin. La grâce ne peut pas être méritée. Elle ne peut être que donnée ou reçue. Mais quelles sont les étapes à prendre quand Satan attaque notre corps physique avec la souffrance pour nous rendre impatients avec la volonté de Dieu? Quelles sont les étapes? La première étape à laquelle je pense, c'est Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous résistez au contraire à Dieu, Satan aura une entrée, le pied dans l'entrée. Il faut dire à Dieu vos sentiments. Seigneur, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Il faut être honnête, hein. Il faut pas dire, oh, merci, c'est super, je suis content d'avoir ces expériences difficiles. Ça, c'est faux, hein. Et Dieu sait ce qui est dans notre cœur. Mais il faut dire la vérité. Mais décidez de vous confier en lui malgré tout. Job a dit, Job 13, verset 15, même s'il voulait me tuer, je m'attendrai de lui. Nous aurons la même chose. Et puis, deuxième étape, pas seulement soumettez-vous à Dieu, mais aussi rendez grâce en toutes choses. Remerciez Dieu pour l'épreuve. Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu qu'on rende grâce. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on doit apprécier ce qui se passe. On ne doit pas avoir une fausse présentation qu'on aime ça. Mais de savoir que Dieu est au contrôle. Troisième étape, lisez la parole de Dieu. On ne vit pas la vie chrétienne avec des explications. J'ai des gens qui viennent me dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi ce n'est pas la bonne question? Parce que Dieu nous donne pas toujours des explications de ce qu'il fait. On vit la vie chrétienne basée sur les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu, de savoir que Dieu va jamais faire du mal à ses enfants. Dieu n'a jamais expliqué à Abraham ce qu'il faisait, mais il a donné suffisamment de promesses à Abraham pour continuer, de dire que Abraham, tu seras le père d'une multitude. Il a un enfant et un autre donné. Dernière étape, chercher les possibilités à glorifier Dieu. Il faut nous rappeler que Dieu veut utiliser notre corps pour glorifier son nom. Satan veut utiliser notre corps pour faire le contraire. La patience dans la souffrance glorifie toujours le Seigneur. C'est incroyable combien de fois les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ne comprennent pas comment nous pouvons vivre ce que nous vivons sans maudire Dieu. Dans leur souffrance physique, Paul et Silas en prison, enchaînés, ils les ont battus, ils l'ont mis en prison, enchaînés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des cantiques. Des fous. En mourant, lapidé par les gens, Étienne glorifiait Dieu par sa prière, même pour ses malfaiteurs. Et l'apôtre Paul, encore en prison, glorifiait Dieu avec cette belle lettre à l'église de Philippe. Moi, je ne sais pas, peut-être Dieu ne va jamais changer vos circonstances si vous vivez des choses difficiles, mais je suis sûr que Dieu peut vous changer pour que vos circonstances travaillent pour vous, dans votre faveur, pour construire la patience, et pas contre vous. Nous ne pouvons pas contrôler l'origine de la souffrance, mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons contrôler quand même notre réaction à cette souffrance. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on va peut-être regarder quelques questions que j'ai mises, pour le deuxième, le destructeur. Merci. Pourquoi Satan veut-il attaquer notre corps? Alors, je vous laisse répondre. Pourquoi Satan attaque le corps physique? Comment?
Ouais. Parce qu'il sait que notre corps influe sur notre façon de penser, sur notre relation avec le Dieu.
Exactement. C'est toujours la même chose. Hein. Il veut toucher cette relation, il veut nous éloigner de Dieu. Là. C'est... Ouais.
Et puis, l'homme
Voilà. Il attaque Dieu et ce qu'il crée. Satan peut-il faire tout ce qu'il veut avec nous?
Non.
Non. Là, c'est, on est tous d'accord. Et attention, parce que j'ai entendu ça même dans une église où il prêchait l'idée que Satan est trop fort, il est plus fort, et attention, il va faire ce qu'il veut.
Ah non, non.
Ça, c'est pas la vérité qu'on trouve dans la Bible. Hein. Est-ce que toute souffrance et maladie est une attaque de Satan?
Non, non.
Ah, vous êtes d'accord avec moi, c'est bien. Et pourquoi la patience est-elle importante pour nous dans la souffrance?
Pardon.
Oui. Oui, sur lequel? Sur le...
Est-ce que toute souffrance et maladie est une attaque de Satan? Mais indirectement, oui.
Indirectement, comment tu veux dire indirectement?
Que... S'il n'y avait pas eu la chute, il n'y aurait pas eu de souffrance. La chute est venue de Satan.
C'est un choix. Adam et Ève avaient le choix de soit de tomber, de succomber à la séduction de Satan, soit de défendre le commandement qui a été donné par Dieu. Donc c'est un choix, hein,
le choix il vient de Satan.
Bon exemple, oui, c'est vrai, ça manifeste que ça existe des fois, la souffrance, mais c'est pas nécessairement l'auteur de Satan de cette souffrance.
Jésus sur la croix, il a souffert.
Comment?
Jésus sur la croix, il a souffert, mais s'il a souffert, c'est pour nos péchés.
Ouais. Oui. Et qu'est-ce que tu penses?
La Bible n'y répond pas. Pour nous donner le choix. La Bible ne répond pas pourquoi le mal existe. Pour nous donner le choix.
Oui.
Ah non.
Ça,
je
ne
suis pas d'accord.
Non.
Qu'est-ce que la Bible dit alors?
La chute. Parce que Satan s'est révolté contre Dieu. Il aurait été appelé de Dieu, il n'est pas ici. Il aurait pu faire péter pour se venger, mais il a tous les hommes à la tradition. Avec qu'ils ne sont pas tous seuls en enfer.
Dieu n'a pas créé le mal,
non.
Mais il a laissé cette possibilité pour que nous avons le choix. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas mécaniques, mais nous avons le choix. Et combien ça fait du bien quand les gens acceptent de vivre pour le Seigneur et non pas choisir le mal. Mais c'est quand même un choix. Dieu n'a pas créé le mal, mais il permet justement de pouvoir où est notre cœur.
Mais ça répond pas à la question pourquoi le mal existe.
Pourquoi le mal existe, mais c'est quand même pour que l'homme ait un choix.
Ah d'accord.
Mais sinon, on est...
Pour la liberté, alors.
Voilà. Voilà.
Et la responsabilité.
Les deux ensemble.
Les deux ensemble.
La liberté nous donne la responsabilité.
Et Dieu utilise aussi, en permettant la souffrance, c'est un moyen d'éducation de ses enfants. On le voit à plusieurs reprises, mais je dis ça, un exemple parmi tant d'autres. Mais Dieu avait donné un ordre. Le Seigneur avait dit à ses disciples, allez et faites des disciples par tout le monde, à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'Église se trouvait bien à Jérusalem. Et Dieu a permis qu'elle soit persécutée pour qu'ils aillent ailleurs.
Parce qu'ils étaient lents à comprendre et vivre la demande de Dieu. Tout à fait.
Et c'est vrai que le mal se transmet de génération en génération à cause de la fuite.
Oui. Oui. Alors pourquoi la patience est importante pour nous dans la souffrance?
Ça permet de comprendre la souffrance.
Ça rend
gloire
à Dieu. Oui. Quand nous croissons de plus en plus en lui.
C'est pour notre.
Nous avons de plus en plus confiance.
C'est pour le. Dieu pour renforcer notre foi, oui, et ça. Notre confiance en Dieu aussi.
Ouais.
Relation.
Et je pense à notre entourage aussi.
Comment on fait aux autres quand on est différent. Témoignage. Ouais. Témoignage, oui. Oui, parce que souvent.
Regarde l'exemple de Johnny. Vous connaissez l'histoire de Johnny là, qui, incroyable l'influence qu'elle a eue sur les gens dans le monde entier à cause de sa manière de gérer la souffrance dans son corps.
Peut-être tu peux expliquer ce qui.
Vous savez qui c'est, Johnny?
Non, d'accord.
Ah oui, oui,
ah, c'est la femme qui, quand elle était jeune, elle a plongé dans, dans l'eau. Elle a brisé la nuque. Et elle est jusqu'à aujourd'hui paralysée, comme ça. Mais. Au début, elle a douté, elle était en colère avec Dieu, elle a tout essayé pour être guérie, elle a fait plein de choses. Et finalement, elle a accepté l'état où elle était pour servir Dieu. Et ça a ouvert les portes énormes. Ouais. Elle a écrit plein de livres, elle fait des choses incroyables quand même, avec sa bouche, avec la peinture, des choses. Elle chante. C'est quand même une histoire incroyable. Et ça, c'est actuel, notre qui existe aujourd'hui.
Le photo Paul avait un handicap des yeux et il faisait éditer ses lettres à deux personnes.
Ah oui, ah oui, ah oui, ah ouais. C'est quand même incroyable.
La patience est un fruit de l'esprit.
Voilà.
C'est important.
Tout à fait.
Ils sont donnés pour nous aider à vivre la vie que nous avons maintenant, donc la souffrance.
Parce que la patience est une marque de maturité, carrément. Les enfants, ils ne sont pas patients, c'est leur nature. Mais lorsqu'on vit avec le Seigneur, en espérant que ça construit notre patience, on n'est pas toujours les bons exemples. Alors, la dernière question, quelles sont les étapes à suivre quand Satan attaque notre corps? C'est pas une mauvaise idée quand même. Mais... Donc j'ai dit d'abord la soumission à Dieu, prier, et puis remercier Dieu pour l'épreuve. Peut-être on n'est pas content avec, mais dire merci Seigneur que tu agis. Je sais que je comprends pas comment tu fais, mais je sais que tu travailles. Lisez la parole.
C'est aussi une marque d'amour.
Exactement, exactement. Parce qu'on est parents, on aime les enfants, des fois il faut les discipliner, il faut, c'est sûr. Et puis chercher à glorifier Dieu, même dans les circonstances difficiles. Oui. Question? Oui.
Une question, c'est que quand Satan attaque notre corps, c'est pas comme Dieu qui nous donne...
Ah oui. Ah oui, j'ai répondu. C'est vrai. La question est plutôt quand Satan attaque notre corps, quelle doit être notre réaction. Voilà. Je sais pas. Ça vous encourage, j'espère. On vit tous une bataille. Et des fois, c'est pas simple. Et quand je lis l'histoire de Job, j'ai dit incroyable. Des fois, je pense que je souffre. Mais rien à côté de ça. On va remercier le Seigneur et on va... Seigneur notre Dieu, nous te remercions de savoir que tu es au contrôle même des choses que nous ne voyons pas, même les batailles qui se passent dans les airs, dans le ciel. et de savoir que tu es plus fort. Ce n'est pas l'ennemi qui a la main, mais c'est toi. Et merci Seigneur de nous donner justement la patience dans les épreuves pour voir comment tu veux agir en nous et nous aider à vivre pour toi. Que nous puissions être vraiment les témoins extraordinaires dans notre entourage lorsque nous vivons des choses difficiles et que les autres disent comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt. Mais de savoir que tu es à l'œuvre et nous pouvons même vivre pour toi quand c'est difficile. Merci de nous fortifier et nous aider au nom de Jésus. Amen.
Des annonces.
On devait conclure. Mais normalement, j'ai pas besoin de micro quand je parle.
Ah bon. Ça va, il a une belle voix. Hein,
Non, j'enregistre ma voix. Donc, ça,